Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Le Corbusier.
L'homme qui avait conçu des capitales est mort dans une cabane solitaire. Les baigneurs qui rapportèrent le corps du vieux nageur ignoraient qu'il s'appela Le Corbusier. Mais peut-être eût-il été content de savoir que lorsqu'il le voyait chaque jour descendre vers la mer, il l'appelait l'Ancien.
Il est mort il y a 50 ans, noyé dans la Méditerranée en face du cabanon ascétique qu'il avait conçu à Roquebrune, 3,66 m sur 3,66 m. Malraux a prononcé son oraison funèbre, comme pour Braque, comme pour Moulin. Certes, Le Corbu n'avait pas été du même côté que le fondateur du Conseil national de la Résistance, mais après-guerre, il avait conquis une position vraiment dominante. Ainsi purent surgir, dans les années de la Reconstruction, les quatre cités radieuses qu'il était encore toutes, quand Malraux les présentait comme autant de chefs-d'œuvre capables de se mesurer aux grands édifices du passé. Le grand déclamateur de la République gaulienne pensait, en les voyant, aux temples grecs avec leurs colonnes doriques, aux cathédrales avec leurs fûts. En même temps, la famille corbuséenne s'était constituée contre d'autres qui osaient parfois dénoncer l'esprit concentrationnaire de ces unités conformes d'habitation. Le Corbu les considérait comme des petits hommes prisonniers de leur routine et de leur pauvre bon sens. Cependant, 50 ans après, le temps ne joue-t-il pas en faveur des esprits critiques ? Derrière Le Corbu glorieux, le travail historique ne fait-il pas surgir un Corbusier plus inquiétant ? L'année 2015, qui était organisée autour de la célébration de l'homme, a été très perturbée par la publication d'un grand livre, fidèle mais sacrilège à la fois, de François Chalin.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
François Chalin, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Sans doute notre critique d'architecture le plus indépendant, le plus imprévisible, vous publiez un extraordinaire livre, Au Seuil, qui s'intitule « Un Corbusier ». Cette phrase de Malraux, nous l'avons choisie à dessein parce que, jeune, vous la connaissiez par cœur.
Oui, je connaissais surtout celle de Malraux sur l'enterrement de Jean Moulin qui nous servait à chaque fois qu'on entrait dans une de chevaux, on déclamait Malraux. J'adorais ça. Et j'adorais l'emphase de Malraux et j'adorais l'idée que je me faisais de Corbusier. Ça fait longtemps que ça fait de ça 45 ans ou 50 ans presque que le Corbusier me trotte dans la tête. Et du coup, j'ai accumulé depuis des années immensément de connaissances, immensément de livres, immensément de photos découpées, d'articles de presse, tout ça. Et puis je m'y suis plongé pendant environ 2 ans et j'en suis revenu de cette promenade un petit peu mélancolique, un peu.
C'est comme un arrachement, on verra pourquoi, à une passion.
C'est ça, oui.
Alors, on va beaucoup parler mesures dans cette émission. Le cabanon où il est mort, c'est devant lequel il est mort, c'est 3,66 m par 3,66 m. Alors, comptons en mètres, en kilomètres, en ligne droite, en virage, je ne sais pas. Il est né à combien de kilomètres de la frontière française en Suisse ?
Par le chemin de fer ou par la voie la routière, c'est environ 15 ou 16 kilomètres ou 20 kilomètres, je ne sais pas. À pied, si on monte par les pâtures et le bois, c'est environ 2 kilomètres.
Oui, parce que vous avez tous fait ça. Vous avez fait de la marche à pied, vous avez couché dans les lits des dominicains du couvent de la Tourette, vous avez dormi à la Belle Étoile sur la terrasse de la cité radieuse de Marseille et fait le chemin entre la Chaux-de-Fonds et la frontière française. Il arrive pour s'installer définitivement en France en 1917. Il va être assez vite actif. Il faudrait peut-être qu'on décrive le climat de la France d'après la Première Guerre mondiale. Lui, c'était un esprit géométrique. Ça nous a donné l'idée de vous faire entendre comme prélude un extrait du docteur Knock. La pièce est représentée en 1923. C'est un homme moderne, un réformateur, le docteur Knock, Louis Jouvet, un peu comme Le Corbu.
Venez un peu ici, docteur Papalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel.
Qu'est-ce que c'est que tous ces pavillons individuels? On aimait beaucoup ça dans la France des années 20.
Oui, on va même les favoriser avec une loi qui s'appelle la loi Loucheur. C'est une période dans laquelle l'urbanisme est assez impuissant devant la croissance des villes. Les villes croissent en général au profit de le long des voies de chemin de fer. Donc les villes vont très loin. Des gens assez pauvres construisent des baraques souvent, puis des pavillons dans des lotissements, sans guère de voirie. Donc c'est un monde assez difficile pour l'urbanisme français, c'est un moment très difficile.
Le Corbusier, il veut organiser tout ça, classer, trier...
Il veut mettre de l'ordre dans tout ça. C'est une... L'ordre est une de ses obsessions, outre que c'est une obsession psychologique, c'est un maniaque de à tous les égards. Un maniaque de ses correspondances, un maniaque de la vie quotidienne, un maniaque, il faudrait une psychanalyse de certaines ont été faites d'ailleurs. De Le Corbusier, il veut y mettre de l'ordre parce que il pense que l'urbanisme, que la vie des hommes même peut être gérée comme on gérera maintenant des autoroutes ou des choses ou des grands paysages.
Knox, c'est un médecin, mais c'est un chirurgien.
Le Corbusier aussi est un médecin.
Oui, mais c'est un chirurgien.
C'est un médecin des âmes.
Il veut des actes chirurgicaux.
Mais je suis extrêmement mécontent que vous ayez trouvé cette magnifique équivalent médical de la pensée de Corbusier dont je me souvenais pas. Il aurait mérité de mon livre.
Mais d'ailleurs, il y a une petite bande, on va les appeler les quatre mousquetaires, qu'on va retrouver pendant toute l'entre-deux-guerres dans la première partie du parcours de Le Corbusier, dans laquelle il y a un médecin dont vous faites le portrait.
C'est un garçon qui s'appelle Dr Winter. Dr Winter est un homme qui est très nourri d'ésotérisme, et notamment de la pensée d'un philosophe qui s'appelle Guénon, qui est un orientaliste, et un homme très hostile au rationalisme, et au legs de la Révolution française, et au système métrique, etc. Et Winter est totalement nourri de ça, il professe des théories totalement extraordinaires sur les races, sur la morphologie physique des grands leaders politiques, qu'il s'agisse de Nehru, de Gandhi, ou de Lénine. C'est un type tout à fait étonnant, c'est un médecin, il prend ce Corbusier qui est assez fragile, qui a honte de son corps, qui est non seulement un peu puceau, mais un peu mal à l'aise, il en fait un sportif pendant des années, et il devient un de ses gourous.
Et il habite d'ailleurs rue Ningesser et Colli, dans l'immeuble propre de Le Corbusier. Il y a aussi Hubert Lagardelle. Dans les quatre, lui, c'est le fantôme, parce que il est diplomate ou bien espion. Il y a un certain Pierre Feu.
Pierre Feu est un ingénieur, dit-on extrêmement brillant, lui aussi très ésotéricien, numérologue à la fin de sa vie, qui affecte de porter un monocle, ce qui est quand même assez rare dans ces années-là, et qui est un des grands amis de Corbusier aussi, un des trois ou quatre grands amis, notamment dans des projets politiques ou de revues.
Alors, ils animent ensemble le redressement français, plan, prélude. Prélude à quoi? Pas exactement à un régime parlementaire, hein. Il faudrait aller plus vite que le régime parlementaire.
Prélude, il explique dans le premier numéro, qui est, je crois, de 32 ou 3.
32.
Il explique que les gens qui vont prendre le pouvoir, nous les connaissons et nous sommes très près d'eux. Ils créent ce qu'ils appellent le comité central, dans lequel il y a ces quatre que vous appelez mousquetaires. Donc c'est bien une sorte de groupuscule, on aurait dit, dans les années 60.
Cellule dormante qui préparerait l'avènement d'un temps nouveau.
C'est comme ça qu'ils se vivent. Ils ont des réunions qu'on connaît mal parce que les archives ont été détruites, mais certains témoins ont raconté qu'ils allaient dans ces réunions. Elles sont secrètes, il y a un goût du secret. Certains témoins en ont témoigné, donc c'est quand même un groupe politique.
Et en arrière-plan, il y a un personnage qui s'intitule Philippe Lamour. Très beau nom, ce sera plus tard un des pères de l'aménagement du territoire en France, ou un grand-père des sentiers de grande randonnée. Mais dans sa jeunesse, il était un des premiers responsables du faisceau de 1926.
Dont Vinter était des créateurs.
Et dont Georges Valois était l'initiateur. C'est le seul groupe dont tous les historiens de la France de l'entre-deux-guerres sont d'accord pour dire qu'il était fasciste. Il revendiquait d'ailleurs le mot. Philippe Lamour s'en explique plus tard.
On vous sent chercher votre voix, et une de ces voix possibles paraît être celle de M. Georges Valois. Oui, c'est un accident du travail. Georges Valois était un éditeur Place du Panthéon, un excellent éditeur d'ailleurs, qui n'éditait pas que des ouvrages d'Action française. Mais dans le milieu d'Action française, il a été profondément rebuté. Il pensait que ce qu'il y avait de bon du côté de l'Action française, c'est l'idée nationale, mais qu'elle était exclusive de toute préoccupation sociale, et lui essayait justement d'associer étroitement la défense des valeurs nationales avec les idées de progrès social. Et il a créé un mouvement qui voulait unir les anciens combattants et les producteurs, c'est-à-dire les forces vives de la nation, ce qui fait vivre la nation, et non pas des intellectuels irresponsables ou de vieux messieurs traditionnels ressassant toujours les vieilles routines. Il voulait faire un mouvement anti-parlementaire et populaire, mais à tendance sociale. L'union de ces deux idées qui sont apparues très rapidement contradictoires fut à l'époque séduisante.
Un accident de parcours, Philippe Lamour, dès l'avant-guerre, est revenu dans le rang de la gauche parlementaire. Tandis que vous expliquez, regardant les relations de Le Corbusier, que lui...
Lui essaye d'aller à Vichy. Il essaye d'être ce qu'il appellera le dictateur de l'urbanisme. Il passe d'ailleurs 18 mois à Vichy.
18 mois à Vichy.
Et il fait jouer un certain nombre d'influences, des gens qui sont proches de Pétain, des gens qui sont au... Lagardelle est ministre à un moment, Winter est au ministère du Travail aussi, dans l'idée qu'il va devenir le grand urbaniste du nouveau régime de la Révolution nationale.
Oui, mais ça, on le savait peut-être pas, le séjour aussi long à Vichy que vous explorez dans le détail, mais on entendait dire, quand on était proche de la famille corbusienne, comme vous, bon, bah, il aurait mangé à tous les râteliers pour pouvoir développer son projet. Vous oui, allez plus loin, vous.
Oui, c'est ce que disent, par exemple, c'est ce que disait Charlotte Perriand, c'est ce que disaient la plupart des gens. C'est
Charlotte Perriand, grande dessinatrice de mobilier.
Et c'est ce que disent encore communément les architectes avec qui je parlais de mon projet depuis quelque temps. Ils disent, oui, on le sait qu'il cherchait des régimes forts, parce qu'il cherchait des régimes d'autorité, parce qu'il voulait construire. En fait, non, pas du tout. Dès 24 jusqu'à 43 ou 44, il est, sinon encarté, du moins ses amis sont tous des gens de ce qu'on pourrait en caricature un peu appeler des fascistes, même si en 36 ou 35 ils commencent à dire « nous ne réclamons plus de ce mot de fascisme », c'est Winter qui écrit ça sans doute, ou Pierre Feu, on ne sait pas, l'article n'est pas signé, et parce qu'il faut réserver le fascisme à Mussolini, à l'Italie, il y a des sortes de territoires maintenant qui deviennent rivaux, donc ils abandonnent le mot fascisme, tous les Français, tous les groupuscules français abandonnent le mot fasciste, sauf celui de Burckhardt. Même s'il défile avec des baudriers, avec des bottes, avec des casques, avec des gourdins, etc., il n'emploie plus le mot fasciste.
Alors, il a cessé de construire à partir de 1933 à cause de la crise économique. Il a fait beaucoup de villas. Le dernier grand bâtiment des années 30, c'est l'Armée du Salut. Dis-toi, on rigole pas quand on est clochard et qu'on loge chez Le Corbusier. On a qu'à bien se tenir. Hein.
Surtout quand on est fille mère, parce que les filles mères sont logées dans des locaux qui sont vitrés, entièrement vitrés, tournés au sud, au sud-ouest, même ce qu'il y a de pire, et qui sont, dans son esprit, réglés par l'air exact. L'air exact, c'est une sorte de clim qui marche pas du tout. Donc les gens crèvent absolument là-dedans et s'en plaignent beaucoup. Ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Il interdit qu'on ouvre les fenêtres.
Mais ses clients, il n'y a rien à redire. Je veux dire qu'il n'y a pas, comme chez les clients des grands architectes d'aujourd'hui, certaines de nos stars d'aujourd'hui.
Ses clients sont des milliardaires ou des hommes d'affaires.
Des gens fort compromis, il n'y a pas.
Non.
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 C'est pas très aimable ce que vous dites des clients des stars d'aujourd'hui d'ailleurs.
Eh ben, il faut le savoir que les plus grands architectes du monde travaillent très volontiers pour les tyrannies.
Alors ça, c'était ce que vous appelez l'UBAC. Le chemin
oui,
à l'ombre.
C'est l'enfance d'un chef, le côté ombre de l'homme. C'est un peu caricatural de faire un UBAC et un ADRE, mais ça même, mon livre n'avait que deux chapitres.
Il y a des... Oui, enfin, votre livre, il est très gros quand même, François Chalin. J'en préviens nos auditeurs, il est très drôle, mais il est très gros. Alors, il y a des ronces, il y a même des barbelés, il y a des chemins muletiers que les autres commentateurs n'avaient pas empruntés. Et puis, on va passer au pays du soleil, à l'autre versant.
C'est un fondu, un momo, un jobastre, un fada. Il transpire de la cervelle, c'est pas tout, car il a ma belle. Une favouille là-dedans qui lui mange le jugement. Depuis longtemps, au peu cher, il est dans cet état. Tout petit, sans le faire exprès, il but l'eau du pré, ça l'a fatigué. Tout petit, il sortait déjà, sans chapeau, ça, il escagasse ça. C'est un fondu, un momo, un jobastre, un fada, là.
Une, deux, trois, si vous clapotez, c'est fada. une, deux, trois, pour ce nouveau bonhomme, les rois.
Faites deux pas sur le côté, tournez, sautez, sautez, tournez.
Et puis encore deux pas glissés, tournez et puis recommencez.
Une, deux, trois, c'est mieux que la polka, la danse des fadas. Une, deux, trois, pour ce nouveau
bonhomme,
les rois.
C'est un fondu, un momo, un jobastre, un fada.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vous voyez que c'est une chambre qui a 1,83 m de large et 9 mètres à peu près de profondeur. Et nous voyons la mer, avec oui, les îles, les pins, etc. Pourquoi ? Parce que nous sommes précisément dans une maison en hauteur. Si nous étions dans la fameuse petite maisonnette ou le mas provençal que tout le monde désire, ben nous verrions les crottes de poule devant la fenêtre, c'est tout ce que nous verrions, tandis qu'ici nous avons le bénéfice des vues à grande hauteur.
En 1952, à Marseille, on enterrait Vincent Scotto, dont on a...
15 jours après l'inauguration de l'immeuble Maison du Fada.
Un extrait de son opérette Au Pays du Soleil. Et on va parler des raisons pour lesquelles certains Marseillais l'ont appelé le Fada. Notons, c'est un fil conducteur dans cette émission consacrée au Corbusier, à votre livre, aux éditions du Seuil. La question des mesures est extrêmement importante. Vous avez couché dans ces chambres étroites de Le Corbusier, sinon non. À la Cité radieuse de Marseille.
Si,
vous dites
fois,
que vous avez couché au couvent de la Tourette.
Ah, tout a couvé très très souvent, oui.
Et vous avez remarqué
vous étendez
que...
Vous êtes les mains et vous vous rayez les ongles sur le l'enduit grêche oui. De chaque côté.
Et puis vous vous rayez l'épaule aussi, la nuit. oui.
Non, j'aime énormément ce bâtiment, c'est un bâtiment très beau, y compris dans sa frugalité. Ça.
Le versant ensoleillé des années d'après-guerre est planté de chefs-d'œuvre, comme le couvent des Dominicains de la Tourette, comme la chapelle de Ronchamp. On ne va pas parler non plus des réalisations en dehors de la France, parce que comme votre livre, François Chalin, nous allons nous attacher à la première cité radieuse, celle de Marseille. Alors c'est, selon qu'on voit les choses d'un côté ou de l'autre, un paquebot ou alors un porte-bouteille.
Oui, porte-bouteille, c'est parce que Corbusier, à un moment, rêvait de le construire en charpente métallique et d'y insérer, d'y enfourner en quelque sorte des cellules qui auraient été préfabriquées, un peu comme s'il avait rangé un autobus, vous voyez, dans une grande carcasse. Paquebot, c'est son rêve. Son rêve, il a souvent voyagé en paquebot parce qu'il a donné des conférences au Brésil, à Montevideo, en Argentine, dans divers pays.
Il a même rencontré Joséphine Baker sur deux. Et là, il était plus puceau.
Si, il n'a pas eu, non pas consommé. C'est un mythe absolu, ça. Il a dessiné nu, mais il était à moitié stripteaseuse. Enfin bon, j'en sais rien, personne n'en sait rien, mais je crois qu'on prête beaucoup aux grands hommes.
Oui, mais ça c'était en 1929, je vous rappelle qu'on parle de l'après-guerre, François Chalin.
Et donc, le paquebot, parce que pour lui, le paquebot est l'endroit extraordinaire. On vit dans une petite cellule, on a beaucoup de services qui vous sont offerts, des restaurants, des clubs de ping-pong ou de tennis, etc. Et il a toujours pensé qu'un immeuble moderne serait comme un paquebot.
Alors les cellules, enfin c'est quand même un peu plus qu'une cellule. Il avait une grande admiration pour les maisons des Chartreux. Les chartreuses, mais là il fallait loger Monsieur Modulor, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, Madame Modulette, et les gosses, le petit Modulin et la petite Moduline.
Modulor, c'est un système de proportion idéal qui renvoie beaucoup de choses de l'ésotérisme, à vrai dire.
Oui, on a compris que c'était pas métrique.
Ça renvoie au système ancien de la divine proportion, du nombre d'or, qui est une chose qui revient beaucoup dans les années 30, et ça revient aussi au système ancien de mensuration, pieds, pouces, paumes, etc.
Les appartements de la cité radieuse sont calculés en fonction de ce système particulier de mesure. On a dit
qui fait pour un homme d'1,83 m.
Voilà, on a dit que Monsieur Modulor était plus à l'aise que Madame Modulette, parce que notamment pour Madame Modulette, la cuisine au centre, la remise, c'était dans l'obscurité et extrêmement étroit.
C'est-à-dire que le Marseille est un immeuble dans lequel les cellules éclairées d'un côté et de l'autre se présentent comme des sortes de grands rectangles très longs. De très grande boîte, de 24 mètres d'épaisseur. Donc évidemment, quand vous êtes au centre, là où est la cuisine, là où sont les salles de bain, etc., vous n'êtes pas, vous êtes loin des ventilations et loin de l'éclairage naturel.
Oui, enfin, donc, attendez, n'insistez pas trop, parce que vous seriez contemporain du Corbusier, il vous convoquerait, comme il a convoqué en janvier 1950 Frédéric Potcher, il monterait sur ses grands chevaux et il vous dirait,
Nous traversons le fameux objet de litige.
Ah, oui.
C'est ce centre du logis entre la façade est et la façade ouest qui est pleine d'obscurité. Vous voyez,
ce n'est pas du tout obscur.
Il ne fait pas sombre du tout, absolument pas.
Oui.
Et cette partie intermédiaire de la maison, c'est précisément toute une partie capitale de la maison. Voilà.
C'est ça.
Voilà ici la planche repassée qui est relevée.
C'est
ça. Ça signifie que toute la remise de linge se trouve ici,
oui,
à cet endroit central de l'appartement.
C'est ça.
Et alors, vous y avez la douche ici pour les
enfants. Ah, il y a une douche ici. Ah, parfaitement, oui. Ah, c'est une douche pour les enfants.
C'est une douche pour les enfants, exactement à côté des deux portes de chambre d'enfants. Je vais vous expliquer, venez avec moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne dès le début.
Bon, alors attendez, je vous suis.
Voilà. Ici, c'est la loggia Brise-Soleil qui commence ainsi, n'est-ce pas ?
Oui.
Eh bien, il y a une table de travail extérieure,
oui,
qui sert de garde-fou et de brise-vertige, si vous
voulez, oui.
Et qui donne un confort extraordinaire à cette loggia.
C'est ça, oui, je vois.
C'est un extrait d'une émission de 50 que vous avez reprise dans votre propre émission si regrettée à France Culture qui s'appelait Métropolitain. Évidemment, Potcher, il vivait dans une maison des Vosges extrêmement sombre, il est épaté, mais... Alors justement, la lumière, on en parlait à cause de l'armée du salut à Paris en 1933. Là, à Marseille, il peut faire très chaud, peu non chaud à Le Corbusier.
Oui, il peut faire très chaud. C'est-à-dire qu'il y a deux types de logements. Tous les logements ont un séjour en duplex, donc 5 mètres de haut. Magnifique, très très bien éclairé. Ceux qui sont à l'est, bien évidemment, reçoivent la lumière du matin. Ceux qui sont à l'ouest reçoivent plein pot la lumière du soir. Donc il fait extraordinairement chaud. Donc les gens commençaient à mettre des canisses, à mettre des rideaux, etc. Ce qui faisait protester considérablement Le Corbusier.
Qui ne voulait même pas de géranium.
Qui d'ailleurs a écrit à Malraux pour se plaindre. Les géraniums, c'est pour son immeuble de Boulogne, dans lequel Canetti, le serviteur de disques,
avait mis des fleurs
sur la façade. Donc lettre à Malraux. Oui. Lettre à Malraux, de protestation.
Oui, c'est bon pour la Suisse, c'est pas bon pour Paris ou pour Marseille. Bon, on a compris que Frédéric Potcher ne faisait pas partie des adversaires de Le Corbusier.
Il y en avait beaucoup
des adversaires.
Beaucoup d'adversaires de Le Corbusier de tout temps. D'une part parce que lui n'était pas commode, il était extrêmement doctrinal, et que par ailleurs, ses thèses allaient à l'encontre de tout ce que pensaient à la fois les théoriciens d'urbanisme français, la fameuse école d'urbanisme française apparue au début du XXe siècle, et très influente jusque dans l'après-guerre, et allait aussi à l'encontre de tout un système. Alors, comme je disais, c'est l'argent qui se défend. Mais qui était le système du bâtiment en France? Qui était ce système dans lequel n'importe quel pavillon avait un bon menuisier, avait un sculpteur, avait un type qui savait assembler des carrelages, etc. Tout ce qui a totalement disparu ensuite.
L'association de l'entrepreneur, de l'artisan.
Tout ce monde, cette espèce de famille du bâtiment français, ou du bâtiment européen en général, qui a été totalement laminé dans l'après-guerre.
Alors, vous étudiez de près les positions des adversaires, vous insistez beaucoup sur la motion qui a été votée à l'unanimité, moins une voix, par tous les architectes du Morbihan, et qui, quand même, mettait en avant des arguments de bon sens.
De très bon sens, d'autant meilleur sens, c'est-à-dire qu'ils l'avaient plagié, ils avaient piqué sur un article d'un homme qui vit encore, d'ailleurs, qui est très vieux aujourd'hui, qui est un type magnifique. Il y avait des tas d'arguments de bon sens. Sauf que le bâtiment, quand on le visite, celui de Marseille, peut être totalement stupéfiant d'émotions, de nouveautés. Il faut aimer la nouveauté, bien sûr, il faut aimer un mode de vie différent. C'est pas le cas des autres, parce que les autres sont beaucoup plus petits, beaucoup plus étriqués.
On va y venir, mais restons quand même un instant, si vous le voulez bien, François Chalin, à Marseille, dont on n'a pas dit que c'était un village en hauteur. Hein, avec des rues suspendues.
Voilà, c'est ce qu'il appelle l'unité de grandeur conforme.
L'école sur le toit, cette cité radieuse, elle est visitée régulièrement. Il y a beaucoup de touristes. Hein.
Maintenant, beaucoup. Beaucoup de galeries d'art, beaucoup de...
Et il est recommandé dans l'appartement témoin de mettre des chaussons ou bien de se déchausser. Et il y a des desservants du culte. Les journalistes sont souvent emmenés en pèlerinage ainsi, ou étaient souvent emmenés en pèlerinage, dans l'appartement de Lilette.
Il y a quand même un esprit qui est dans la maison. C'est comme un village. Nous sommes quand même 1600 habitants. C'est un grand village. Ça se passe surtout par rue. C'est assez drôle d'ailleurs. Première rue, deuxième rue, quatrième rue, cinquième rue, sixième rue. Moi, par exemple, j'adore la cinquième rue. Je n'habiterai pas la deuxième rue. La cinquième rue, il me semble qu'il y a une espèce d'affection qui se crée entre les gens, d'entraide. On n'est jamais isolé ici. Et si vous voulez, vous ne voyez personne. Et si vous voulez, vous êtes aidé par tout le monde. C'est ce que j'appelle l'esprit Corbu. Corbu, vous savez, disait une chose. Vous voyez cette main qui est là. La main ouverte, c'était le symbole de Monsieur Le Corbusier. C'était la main ouverte pour recevoir et pour donner. C'est une bulle remplie de soleil, c'est cette noisie.
Un appartement de lumière et de couleurs qui fait aujourd'hui des envieux. Les Japonais voudraient en effet réinstaller cet appartement au Japon. À la place, ils ont proposé une somptueuse villa à Lillette, au bord de la mer. Mais qu'irait-elle faire si loin de son village?
Oui, les touristes s'insinuent partout. Lillette, c'est la famille ou c'est la religion?
C'est, je crois qu'il l'appelait lui-même la gardienne du temple. C'est une institutrice totalement dévouée, je dirais pas dévote, ce serait péjoratif, dévouée aux idées corbusiennes, et qui d'ailleurs a fait faire par ses élèves sans cesse des caricatures de Corbusier, qui sont des papillons, des caricatures de l'immeuble, des fresques, etc., des napperons, des cendriers pour la fête des mères. C'est l'organisatrice principale du culte. Elle a vécu jusqu'à sa mort, survenue il y a 10 ou 15 ans, dans un appartement dans lequel même les plombs étaient d'époque. Il n'avait rien changé.
Je vous rappelle que dans votre livre, vous parlez d'images pieuses qu'elle faisait fabriquer, et que les adversaires de votre livre vont dire que vous faites de la caricature. Mais vous étudiez de très près les autres cités radieuses, Briey en Lorraine, Firminy dans la Loire, Rezé en Loire-Atlantique. Celle qui maintient le cap, c'est Marseille, parce qu'il y a une homogénéité sociale. Mais dès qu'il y a des difficultés économiques ou des mosaïques sociales qui s'installent dans les cités radieuses, elles se fracassent souvent.
C'est le cas dans le genre du logement collectif, d'ailleurs. Très souvent. Mais particulièrement à Briey, par exemple. Parce que Briey, il faut imaginer que c'est un tout petit village, peut-être 3000 habitants, 3500 habitants, c'est une bourgade. Et à 1500 mètres, en pleine forêt, on construit un truc pour 1500 personnes. 1500 personnes qu'on amène là de toutes les régions. Ce sont des ouvriers des mines, ce sont des militaires américains, ce sont toutes sortes de gens. Au début, ça marche un peu. Puis très rapidement arrivent les crises, la fameuse crise du bassin minier, et tout ça entre en déconfiture. Et les gens partent. Je me souviens d'avoir visité il y a 20 ou 30 ans, il y avait 17 familles dans l'immense bâtiment de 50 mètres de haut.
En conclusion, vous diriez que il n'avait pas tort, ceux qui voulaient ramener davantage d'humanisme dans l'architecture, et que Le Corbusier est peut-être plus près du totalitarisme qu'on ne l'a pensé.
Il est près du totalitarisme, je ne sais pas, ce sont des mots d'aujourd'hui, quoi. Même si les gens l'employaient comme un vocabulaire positif à son époque.
L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Maxime Ingrand. La préparation, Elisabeth Jacquinot, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.